Alors, nous transpirons de joie à l'occasion de cette mémoire de martyr, de cette fête de fondation et à la lumière d'une parole qui vient nous interpeller, je pense, me semble, au centre fort, non seulement sur l'espérance des fruits à venir, mais sur qui nous parle aussi de la maturité de l'amour et du chemin de liberté intérieure vers lequel il nous entraîne. J'ai écrit un texte, je ne sais pas si je vais y être très fidèle. On fête aujourd'hui l'anniversaire de l'arrivée de nos frères et sœurs de Jérusalem à Montréal. L'événement a lieu précisément en cette fête des martyrs. Bon liturge, ils savent faire parler la liturgie et rien n'est fortuit dans ce registre. Alors, c'est un signe, préparons-nous dès aujourd'hui, frères et sœurs, à notre tour, à nous laisser attacher au pilori. Le nouveau monde a encore besoin de témoins. La description du martyr de Jean de Brébeuf en particulier ne saura manquer de nous attirer encore de nombreuses et enthousiastes vocations. Je relisais le récit, je ne sais pas si vous avez ça dans votre bibliothèque, sinon vous le mettrez dans la future bibliothèque qui va se bâtir à côté. Le récit de la relation des jésuites, passionnant, il y en a une qui c'est le père Lejeune. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Lejeune, il est parti avec son baluchon en Gaspésie. Il a suivi des tribus Mi'kmaq dans la forêt pendant tout un hiver, dans des conditions inouïes, de froid, de famine. Il enfouissait sa tête, il creusait avec ses ongles la terre gelée du fond de sa hutte pour se mettre à l'abri de la fumée, des boucans et des feux qu'on faisait pour tenter de réchauffer la place, les pieds mangés par les chiens, etc. C'était dit. Tout ça pour, à la fin d'un hiver, squelettique et malade, il s'entendait promettre par un des Indiens, peut-être on viendra te visiter un jour, évidemment. Il ne venait jamais. Alors, c'est un récit non seulement touchant par la persévérance, puis par la foi immense, de ces témoins, mais surtout par cette espèce de liberté, espèce de joie qui transpire et au fond comme un signe de contradiction à peu près absolue avec tout ce qu'ils vivent et comment ces témoins vivaient de telle façon que voilà leur vie était parole et les racines de leur joie allaient bien au-delà, évidemment, des fruits visibles. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à vous, chers frères et sœurs de Jérusalem. Mon ancêtre, moi, il est arrivé ici il y a 14 générations, donc peut-être à peu près pas très loin de cette époque des martyrs du Canada. Et bon, vous n'êtes pas attachés au pilori, que je sache. Vous avez fait un long voyage en avion, mais vous étiez bien accueillis à 13 ans. Il y avait tout un comité... promener, un pique-nique, c'était le fun. Pas tout à fait les mêmes circonstances, mais en même temps, votre vie est un signe merveilleux et admirable de contradiction dans cette ville que vous avez découverte et on entendait du jazz tout à l'heure pendant l'adoration. C'est tout à fait liturgique. Et le signe de contradiction que vous êtes, il est un signe qui pointe vers l'essentiel. Vous savez, ces crèches de Noël, la vie religieuse, ça me fait penser aux crèches de Noël avant qu'on mette le petit Jésus dans son berceau le 24 au soir. Il y a tous les personnages de la crèche qui sont là, les bras en l'air, l'âne, le bœuf, tout le monde est très expressif. Mais voilà, on suit leur regard, puis il n'y a rien jusqu'à ce qu'on y dépose l'enfant, Jésus. Et là, tout prend sens. Le mystère de l'enfance, l'adoration, la source de joie. Alors, la vie chrétienne est une vie de réalisme, une vie branchée sur l'essentiel qui l'anime. Inspire vos témoignages de vie religieuse qui sont un peu une vie baptismale au carré. Pour manifester pour nous aussi, on suit vos regards et puis on dit, mais vers qui regarde-t-il? Alors, et en suivant vos regards, on arrive ici, dans ce lieu où le Christ est aimé, est servi, est chanté, est adoré dans son Eucharistie. La vie religieuse, c'est l'anticipation du royaume. Elle signifie qu'on a entrevu ce royaume et par la grâce que Dieu donne, on accepte d'aller en amont, de remonter la rivière un peu comme les saumons là, qui remontent vers là d'où ils sont nés et de choisir de tenir fidèlement dans la contemplation de celui qui devient plénitude, d'anticiper cet état dans lequel on sera quand nous aussi, de toutes sortes de manières, on rencontrera le royaume du ciel. Alors les vœux que vous prononcez, hein, cette pauvreté qui signifie la plénitude du don de Dieu, de l'amour qui rassasie tout, cette chasteté qui est le regard de sagesse, qui sait redonner sens et poser un regard juste, un regard vrai, un regard libre sur les choses et les personnes. Et cette chasteté, cette obéissance qui sait se faire humble et écoute. Et l'écoute, c'est la clé de ce qui se vit ici. Et une écoute qui fait entrer dans le réalisme. Hein, cette belle définition de la vie chrétienne et religieuse de Lorraine Caza, cette merveilleuse théologienne qui disait que la vie chrétienne, c'est le réalisme. Unir l'amour, le mystère de l'amour et de la présence de Dieu à toutes les choses les plus simples, les plus ordinaires, pour transformer le noir et blanc en couleur, pour mettre du 3D, du 4D dans notre vie, le réalisme. Un jour, on a eu la chance de rencontrer un prêtre, René Voyau. Je sais qu'il est cher aussi à la petite litanie de vos amis. Alors, il nous parlait de la vie religieuse. Il nous disait, la vie religieuse, il dit, répondre à l'appel de Dieu, c'est héroïque, c'est beau, c'est dur. Il dit, tenir, c'est encore plus dur. Il dit, mais tenir jusqu'au bout, c'est encore plus dur. Alors, la vie religieuse, c'est une flèche qui pointe vers ce mystère du grain qui meurt. Le grain qui meurt, c'était un thème si cher à Charles de Foucault, un autre de vos amis, et donc qui espérait, bien sûr, à des fruits, il aspirait aux fruits de sa vie donnée et de sa prière, de son adoration eucharistique, mais en même temps, il en découvrait un autre aspect, peut-être que la parole du jour, elle est une lumière et puis une bonne nouvelle, non seulement dans l'espérance de ce qui vient, mais de cette liberté à laquelle nous sommes appelés à la suite du Christ. Ce grain qui meurt, celui qui perd sa vie, celui qui se détache de ce monde, celui qui veut me servir, toutes des choses qui ont l'air austères et dures au point de départ, et en même temps qui pointe vers cet appel de la grâce. Il ne s'agit pas de sauter dans le vide sans élastique. Il s'agit de marcher dans une plénitude. Et si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, parce que là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alors, outre la promesse de fécondité, ce texte, il exprime aussi la responsabilité. La responsabilité et la liberté qui est vraiment la maturité, la cour des grands, la ligue majeure de l'amour. Alors, ça commence par une grande lumière et l'amour, petit à petit, devient chaleur irradiante, devient humble présence. Alors, ce texte exprime à sa façon la reconnaissance et l'action de grâce pour l'engagement de fidélité dont vous témoignez au cœur de notre ville. C'est toujours une lumière, une respiration, c'est une espérance. C'est un appel à aller plus loin sur les chemins de la vérité et de l'amour. Ce même René Voyau me disait, l'homme a besoin, un besoin profond de réalités qui ne servent à rien, sinon à lui donner une plénitude intérieure. Je relis ça, c'est très beau. L'homme a un besoin profond de réalités qui ne servent à rien, sinon à lui donner une plénitude intérieure, un bonheur vrai, comme peut le faire l'amour le plus pur. Alors merci de tenir et d'être ce signe au milieu de notre ville, de ma ville, de notre communauté rassemblée, de l'Église qui est ici à Montréal, un signe d'essentiel, un signe de gratuité, un signe de fidélité qui pointe vers une plénitude. Et nous n'avons rien à vendre, mais un trésor à partager. Merci d'en être des témoins et que le Seigneur, au feu de son amour eucharistique, vienne nous renouveler, nous relancer, faire de nous des hommes et des femmes signifiants de sa présence au cœur de notre monde. Amen.